Les étudiants bloquent les campus en France vers un nouveau mai 68, point d'interrogation. En blocus, des universités s'organisent en France pour contester les résultats de la présidentielle. Sous le slogan « Ni Macron ni Le Pen », la communauté estudiantine compte rééditer la révolution de mai 1968. En manifestant leur rejet du régime politique dit démocratique qui, selon eux, fausse les résultats des élections en raison d'un système électoral qui maintient les mêmes forces et les mêmes politiciens dans le champ politique depuis des décennies. Jusqu'où iront les étudiants dans leur front? La protesta a commencé dans la mythique Université parisienne de la Sorbonne, dans le quartier latin. Celui-là même qui a vu les philosophes Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir conduire le train du changement. Le premier tour de la course à l'Élysée a sans surprise qualifié le président sortant et la chef de file du Rassemblement national que les défections surmédiatisées n'ont pas empêché sa présidente de talonner le candidat à sa propre succession et qui n'a jamais été aussi proche de la victoire finale. Le sort des deux rivaux se joue désormais aux consignes de vote dont Jean-Luc Mélenchon avec ses prêts de 22% de voix et d'Éric Zemmour qui restituera ainsi ses électeurs à Marine Le Pen. Le mouvement des étudiants semble s'inscrire dans la durée et risque de faire vivre à la France un nouvel épisode d'instabilité après celui des Gilets jaunes, dont la lutte pour les droits des classes défavorisées qui voient leur rang enfler d'année en année n'a connu qu'un répit et peut reprendre à n'importe quel moment. Le second tour s'annonce houleux et pourrait même se tenir dans des conditions incertaines qui on invaliderait les résultats. La présidentielle de cet avril 2022 risque de marquer un tournant décisif dans la vie politique française après un premier virage amorcé en 2017, avec l'avènement au pouvoir d'un Emmanuel Macron, adopté par la finance, devenu un attribut essentiel de la puissance. Le successeur de François Hollande allait bouleverser l'ordre établi en balayant les deux partis traditionnels qui se relayaient au pouvoir depuis le libéral Valéry Giscard d'Estaing. Élu en 1974 face au dernier gaulliste Jacques Chaban d'Elma et à son successeur 7 ans plus tard, le socialiste François Mitterrand, jusque dernier président de gauche dont le parti vient de rendre l'âme avec un rachitique 1,7% pour sa candidate Anne Hidalgo. La Chine demande aux USA de prouver leur innocence par rapport aux laboratoires biologiques en Ukraine. Les activités militaires biologiques en Ukraine relèvent de la préoccupation commune de la communauté internationale, a ajouté M. Zhao. Citant des informations déjà divulguées sur le fait que les USA participent et financent les laboratoires biologiques en Ukraine qui détiennent des agents pathogènes mortels. Igor Kirillov, responsable des défenseurs radiologiques, chimiques et biologiques au ministère russe de la Défense, a déclaré que Hunter Biden était directement impliqué dans les projets américains de déploiement d'armes de destruction massive en Ukraine. Kirillov l'a accusé de financer le programme d'armes biologiques du Pentagone en Ukraine. Les matériaux reçus nous ont permis de retracer le schéma d'interaction entre les organes du gouvernement américain et les laboratoires biologiques ukrainiens, a déclaré Kirillov lors d'un point de presse. L'implication dans le financement de ces activités par des structures proches des dirigeants américains actuels, en particulier le fonds d'investissement Rosamond Seneca, géré par Hunter Biden, attire l'attention. L'ampleur du programme est impressionnante. Qui veut la tête de Poutine? Les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël viseraient l'élimination de Poutine Point d'interrogation. Dans un article récemment publié, Fyodor Lukianov, journaliste et président du Conseil de la politique étrangère et de la défense russe, a parlé de l'élimination de Poutine par les USA, le Royaume-Uni et Israël. Il prétend sur son site web qu'il a assez de données qui témoignent que MI6, la CIA et Mossad ont mis au point un plan commun pour éliminer Poutine de la scène politique internationale. Selon lui, MI6, CIA et Mossad ont déjà essayé d'envahir en cachette la Russie. Ces informations montrent que la coopération entre les services MI6, CIA et Mossad a été considérablement élargie. Au fait, ils ont pour but la décomposition de la Russie de la même façon que l'Union soviétique s'est effondrée en 1981. Dans son allocution sur le budget canadien le 7 avril 2022, la ministre des Finances et vice-première ministre à toutes fins utiles déclarait la guerre à la Russie et exprimait la volonté du Canada de renverser le gouvernement russe. Poutine et ses hommes de main sont des criminels de guerre. Les démocraties du monde entier, y compris la nôtre, pourront être en sécurité seulement lorsque le tyran russe et ses armées seront vaincus. Et nous comptons sur le courage du peuple de l'Ukraine pour y arriver. Comme le combat des Ukrainiens est le nôtre, une lutte pour la démocratie, il est dans notre intérêt national de nous assurer de toute urgence qu'ils ont les missiles et l'argent dont ils ont besoin pour gagner cette guerre. En parlant de cette déclaration, René Boulanger, écrivain et essayiste, se penche sur la position que le Québec aurait intérêt à adopter. Il explique comment fonctionne le réseau de renseignement des Five Eyes qui réunit les pays issus de la colonisation britannique, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, et à quel point ces pays veulent sacrifier les Ukrainiens pour leurs intérêts. Il rappelle aussi la tradition québécoise de refuser de participer à des guerres impériales depuis au moins la guerre des Boers. Il décrit la position du Mexique qui refuse d'embarquer dans cette campagne et ne permet pas à ses forces armées de participer à des guerres hors de ses frontières. René Boulanger aborde également la désinformation qui règne au Québec depuis le début de la guerre, en se penchant notamment sur une journaliste dite indépendante que tous les médias traitent comme porteuse de l'évangile, Madame Tetiana Ogarkova, mais elle n'a aucune indépendance étant liée notamment à l'ambassade américaine et au National Endowment for Democracy, un paravent de la CIA. Il donne comme exemple le récit officiel de Boutcha, qui n'a à peu près rien à voir avec la vérité. Il termine avec une proposition adressée aux députés du Bloc québécois. Les forces finlandaises veulent acquérir jusqu'à 2000 mini-drones aériens. En 2020, la Finlande avait décidé d'augmenter ses dépenses militaires de plus de 54% et donc de les porter à 4,87 milliards d'euros, afin de financer notamment l'acquisition de 64 nouveaux avions de combat dans le cadre du programme HX et pour lequel le F-35E américain a été retenu en décembre 2021. Cette année, dans un contexte marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Helsinki, qui envisage désormais de rejoindre l'OTAN, a annoncé un nouvel effort significatif avec une hausse de 40% du budget de ses forces armées. Ainsi, celui-ci augmentera d'environ 800 millions dès 2023, puis de 400 millions d'euros par an jusqu'en 2026. À cette échéance, les dépenses militaires finlandaises annuelles seront supérieures à 7 milliards d'euros. Nous faisons face à une nouvelle situation. Tout ce à quoi nous avons été habitués est maintenant remis en question, a justifié Kaikkonen, le ministre finlandais de la Défense, le 6 avril. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine signifie que nous devons réévaluer nos besoins de défense, a-t-il ajouté. Cette hausse des crédits militaires permettra ainsi de combler les lacunes capacitaires des forces finlandaises, des plus grandes défenses aériennes, missiles, etc., aux plus petites, dont les mini-drones pour la surveillance et le renseignement. Dans un communiqué publié le 11 avril, l'état-major finlandais a ainsi fait part de son intention de se procurer 1 à 2000 mini-drones dans les 2 années à venir pour un coût d'environ 14 millions d'euros. Ce paraît très modeste par rapport aux hausses budgétaires annoncées. Un appel a été lancé à cette fin aux industriels, lesquels ont jusqu'au 9 mai prochain pour remettre leur proposition. Nous recherchons un système qui fonctionne, quelles soient les conditions météorologiques et par n'importe quelle saison, ainsi que dans des environnements variés. De plus, il devra être facile à utiliser par nos personnels assujettis au service militaire, a expliqué le lieutenant-colonel Riku Rantakari dans le communiqué. Ces appareils permettront d'améliorer considérablement la capacité de reconnaissance des unités et la collecte de données en toutes circonstances, a précisé l'état-major finlandais.